Chapitre 30. Le cahier secret. À Cologny, en ce vendredi matin, une dizaine de voitures de police étaient garées le long de la propriété des Ebesner. Les voisins, alertés par les sirènes, étaient sortis nombreux et s'étaient massés devant le portail ouvert, prenant garde de ne pas le franchir, respect du voisinage oblige. Ils observaient, fascinés, le va-et-vient des policiers accompagnés de deux chiens qui passaient le jardin en peigne fin, tout en commentant avec gravité l'affaire qui pimentait leur journée. Anastasia Ebesner, en rentrant chez elle, s'était trouvée nez à nez avec un cambrioleur. « Apparemment, elle n'a rien », indiqua une voisine qui tenait cette information d'une autre curieuse qui avait interrogé un policier. En la voyant, le cambrioleur s'est enfui.
« Quand même, un cambriolage en plein jour !»
déplora un des badauds.
« Un cambriolage en plein jour !» indiqua un retraité au téléphone avec sa femme, à qui il a répété soigneusement tout ce qu'il entendait.
La pauvre regrettait amèrement d'être partie faire des courses en ville, car elle a raté le spectacle.
« Enfin, il semble qu'Anastasia aille bien. Le cambrioleur s'est enfui à son arrivée. »«
Il ne manquerait plus que les cambrioleurs ne s'enfuient pas !» releva un autre voisin venu avec son chien. « On est chez nous, quand même !»
De petits flocons de neige tombaient lentement du ciel pour venir se déposer sur les cheveux des curieux qui admiraient le bal des policiers qui entraient et sortaient de la maison. À l'intérieur, dans le salon des Ebesner, Anastasia, encore sous le choc de la mésaventure, racontait à l'inspecteur Philippe Sagamore, lieutenant de la brigade criminelle de la police judiciaire genevoise, ce qui venait de se passer. « Comme je le disais à vos collègues, je suis entré par la porte principale. J'ai entendu du bruit, et voilà que soudain, un homme a surgi du boudoir, masqué et vêtu de noir, les mains gantées. Il m'a fait face très calmement. J'ai poussé un hurlement, il a mis un doigt devant sa bouche pour me faire signe de me taire. J'ai obéi. Puis, aussitôt, il est retourné comme une flèche dans le boudoir et il s'est enfui par la fenêtre. Il a disparu dans le parc.
« Et ensuite ?»
demanda le lieutenant Sagamore.
Ensuite, j'ai appelé la police.
Le lieutenant Sagamore se leva du fauteuil dans lequel il était assis et s'en alla observer le jardin par la porte-fenêtre. Il resta pensif un instant. Sa réflexion fut interrompue par l'arrivée d'un membre de la brigade scientifique dans le salon.
« Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda Sagamore.
« On a bien relevé des traces de pas dans la neige, mais elles disparaissent dans les fourrés en bordure de propriété. » À ce même endroit, le mur d'enceinte n'est pas très haut. Le cambrioleur est certainement passé par-dessus et s'est enfui par le chemin de route. Les chiens y ont brièvement suivi une piste, mais elle s'arrête rapidement. Il est sans doute monté à bord d'une voiture. Malheureusement, entre le trafic routier, les promeneurs et tout le voisinage venu enquêter avec nous, les éventuels indices exploitables ont déjà été souillés.
Sagamore fit la grimace. Il n'avait pas quitté le jardin des yeux. Il semblait intrigué. Il finit par ouvrir la porte-fenêtre et sortit de la maison comme un pisteur. Il scruta la neige immaculée et observa les traces de pas autour de la fenêtre du boudoir qui avait été brisée. Puis il retourna dans le salon où son collègue lui dit aussitôt
« Toi, tu as vu quelque chose ?»
« Les pas se dirigent directement vers la fenêtre du boudoir, » fit remarquer Sagamore.
« Et alors ?»
s'enquit son collègue.
« En général, un cambrioleur fait toujours un tour de la maison qu'il s'apprête à visiter. » Ne serait-ce que pour s'assurer qu'il n'y a personne. Puis il entre par une porte-fenêtre plutôt qu'une simple fenêtre. C'est plus simple pour lui.
Or, si j'en crois les traces, il s'est dirigé directement vers cette fenêtre. Il savait que la maison était vide et il visait cette pièce en particulier.
Comment aurait-il pu savoir qu'il n'y avait personne ? Demanda Anastasia.
Il a guetté longuement. Il était là, sur le chemin de route, à proximité de votre portail.
« Vous dites que votre mari est parti tôt ce matin. »«
Oui, vers 7 heures, »
dit Anastasia.
« Et moi, vers 8 heures. »«
Il vous aura vu partir tous les deux, et il sera passé à l'action. »
Sagamore sortit un carnet de sa poche et y inscrivit quelques notes.
« Madame Ebesner, vous êtes partie d'ici à 8 heures du matin, et vous êtes rentrée à 11h30. »«
Oui, c'est exact. » »«
Je suis curieux de comprendre ce que notre homme a fait dans votre maison pendant plus de 3 heures. » D'autant plus qu'il semble n'avoir pas quitté la pièce dans laquelle il a été surpris.
Tout indique qu'il n'a pas visité le reste de la maison,
précisa le collègue de la brigade scientifique.
Aucun signe de fouille, pas de tiroir ouvert. Surtout, il n'y a pas de traces de pas dans la maison. Le cambrioleur avait les chaussures mouillées par la neige. On aurait dû retrouver des flaques sur le sol ou de la saleté sur les tapis.
Il n'y en a que dans le boudoir. »
Et rien n'a disparu, confirma Anastasia, qui avait fait un tour des lieux avec des policiers. « Il y a pas mal d'objets de valeur hérités par mon mari, notamment des tableaux. Tout est là. »
« Cela confirme mon hypothèse, » dit le lieutenant Sagamore.
Notre homme visait le boudoir. Retournons voir cette pièce. En dehors de la vitre cassée et du coffre ouvert, le boudoir paraissait intact.
« Le coffre ne semble pas avoir été forcé, » expliqua le collègue de la brigade scientifique.
« Tu veux dire que notre homme connaissait le code ?» demanda Sagamore.
« S'il a passé 3 heures dans cette pièce, je pense plutôt qu'il a découvert la combinaison. Mode opératoire à l'ancienne, genre le coup du stéthoscope. C'est une serrure à combinaison mécanique. Ce serait donc tout à fait vraisemblable. »
Pourquoi casser la vitre pour entrer dans la maison et prendre ensuite 3 heures pour trouver la combinaison d'un coffre ? Demanda Anastasia.
La vitre, c'est pour entrer rapidement, conclut le lieutenant Sagamore. On est en plein jour.
Il semble que les voisins ont des yeux partout par ici.
Pas de temps à perdre à forcer une serrure et risquer d'être vu. Par contre, une fois à l'intérieur, il voulait opérer sans bruit. Certainement par discrétion. Qu'y avait-il dans ce coffre ?
Je n'en ai pas la moindre idée, avoua Anastasia.
Où gardez-vous vos bijoux ? S'étonna Sagamore.
Dans le coffre de la chambre à coucher. Ce boudoir sert de bureau à mon mari. Je crois qu'il utilisait le coffre pour ses documents bancaires.
Et pour ses montres ? Suggéra Sagamore qui cherchait un motif à ce cambriolage.
Non, ces montres sont dans le coffre de la chambre également.
Madame Ebesner, demanda alors le lieutenant Sagamore. Avez-vous reçu des menaces récemment ?
Des menaces ? S'étonna Anastasia.
Non, pourquoi ?
Parce que j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas d'un simple cambriolage. Permettez-moi de partager avec vous une expérience de flic. Vous savez pourquoi certaines personnes ont 2 coffres chez elles ? L'un est pour leurs bijoux, l'autre pour leurs secrets. J'ai vraiment besoin de parler à votre mari, Madame Ebesner.
Je voudrais beaucoup lui parler aussi, dit Anastasia. Mais je n'arrive à le joindre ni sur son portable, ni dans sa chambre d'hôtel. Il est sans doute en réunion. Comme je vous l'ai dit, il est à Verbier pour un important week-end avec sa banque.
J'ai lu ça dans le journal. Votre mari va être élu président de la banque ce week-end, c'est cela ?
Oui.
Sagamore observa encore la pièce.
Vous affirmez qu'il s'agissait d'un homme, dit-il soudain à Anastasia. Et son visage était masqué. Est-ce que ça aurait pu être une femme ?
Il avait plutôt la corpulence d'un homme, répondit-elle. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir une femme devant moi, et puis ses yeux avaient quelque chose de particulier.
Comment ça, particulier ?
S'enquit Sagamore en attrapant son carnet de notes.
Pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression de le reconnaître, et lui aussi. Nos regards se sont croisés, et il s'est passé quelque chose, comme si nous nous étions déjà vus. Je ne saurais comment l'expliquer. Tout s'est passé dans les yeux.
Les yeux, lieutenant. Les yeux ne trompent pas.
Est-ce que vous avez du personnel qui travaille ici ?
Une employée de maison. Elle est en congé aujourd'hui.
Notez-moi son nom, s'il vous plaît, demanda Sagamore en tendant son carnet à Anastasia.
Elle s'exécuta.
Quelqu'un d'autre ?
Un jardinier, peut-être ?
Interrogea encore Sagamore. C'est une entreprise qui s'occupe de la propriété, mais ce sont en général les mêmes personnes qui viennent.
J'aurais besoin du nom de cette entreprise également.
À Verbier, au même moment. Les employés de la banque Ebesner arrivaient par petites grappes au palace. Certains en voiture, d'autres avaient pris le train et le funiculaire. Tous étaient de très bonne humeur, excités par les promesses de faste du grand week-end. Comme chaque année, après s'être annoncés à la réception et avoir pris possession de leur chambre, la plupart se ruaient vers la navette de l'hôtel qui les menait jusqu'au pied des pistes de ski. Une petite minorité préférait profiter du luxe du palace et se prélasser dans la piscine extérieure chauffée, qui fumait au milieu de la neige, ou dans les bains à remous. Le palace était en effervescence. Le personnel de l'hôtel était aux petits soins. Pour la plupart des employés de la banque Ebesner, le grand week-end était l'événement de l'année. Mais pour Christina, dont c'était la première participation, ce week-end avait une toute autre signification. Elle savait qu'il n'y en aurait pas d'autre après celui-ci. Elle savait aussi que le temps jouait contre elle. Elle devait commencer par découvrir dans quelle salle se réunirait le conseil de la banque. Ensuite, elle agirait avec les moyens du bord. Elle passa au hasard une porte de service et se faufila dans les coulisses de l'hôtel. Elle arriva dans les cuisines, personne ne la remarqua. Elle vit alors affichée au mur une note de service concernant le grand week-end. Elle s'en approcha pour la lire. Elle sentit soudain une lourde main se poser sur son épaule.
« Est-ce que je peux vous aider, mademoiselle ?»
C'était M. Bisnard, le directeur des banquets. À ce même instant, dans le confort feutré de son bureau du rez-de-chaussée, M. Rose prenait un café avec Lève.
« Alors, finalement, tu participes au grand week-end ?»
s'étonna M. Rose. « Il me semble que tu n'y es jamais venu. »«
Jamais, »
répondit Lève. « Trop de souvenirs désagréables. »
« Je t'ai mis dans ta chambre habituelle, comme tu me l'as demandé. »«
Merci, Monsieur Rose. Lève, est-ce qu'un jour tu arrêteras de m'appeler Monsieur Rose ? Appelle-moi Edmond, enfin. Vous avez toujours été Monsieur Rose pour moi. »
Lève observa le tableau accroché au-dessus de la cheminée, représentant Monsieur Rose dans son uniforme de colonel de réserve de l'armée suisse. Il ajouta alors,
« Je vous ai toujours admiré, plus que mon propre père. »
« Ne dis pas ça. »
Lève considéra avec bonté le vieil homme qui se tenait devant lui. Monsieur Rose devait approcher des 80 ans. Si son corps portait les stigmates du temps qui passe, son esprit était toujours aussi vif.
« Vous n'avez pas envie de prendre votre retraite ?» demanda Lève.
« Je n'ai pas trouvé de successeur. Ceux qui veulent me racheter le palace ne sont que des groupes hôteliers sans âme. Je ne veux pas que cet établissement finisse entre les mains d'une grande chaîne. L'indépendance est le plus beau des caractères. »
Lève sourit sans pouvoir masquer une pointe de nostalgie.
« Je regrette de vous avoir fait faux bond il y a 15 ans, Monsieur Rose. »
« Allons, Lève, tu ne vas pas ressasser une fois encore cette histoire. Tu as bien fait d'accepter l'offre d'Abel Ebesner. Regarde quelle extraordinaire carrière tu as faite. »
« Je n'ai jamais aimé la banque, Monsieur Rose. Au fond, j'aurais préféré reprendre le palace, travailler à vos côtés. »
« Ce n'est pas trop tard, »
répondit Monsieur Rose sur le ton de la plaisanterie.
« Malheureusement, si. »
Monsieur Rose se rembrunit.
« Que t'arrive-t-il, Lève ? Tu as l'air étrange. Ton père serait tellement fier de toi. Ah, s'il pouvait voir tout ce que tu as accompli. »
Lève quitta le fauteuil dans lequel il était assis et se posta à la fenêtre. Il regarda la neige tomber sur les sapins.
« Mon père est mort à cause de moi, » murmura Lève.
« Enfin, Lève, tu sais très bien que c'est pas vrai. »
Lève sembla ne pas l'écouter. Il dit alors d'un ton grave, « Monsieur Rose, je vais disparaître. Si je suis venu ici ce week-end, c'est pour vous dire adieu. Je vous dois tant. »
« Disparaître ? Comment ça, disparaître ? Qu'est-ce que tu racontes, Lève ?
Monsieur Rose, il se pourrait que vous entendiez de drôles de choses à mon propos. Vous savez qui je suis vraiment. Vous savez que je ne suis pas un mauvais homme. Vous savez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait.